Et un menu copieux pour notre club cet après-midi avec donc le retour de Thomas Pesquet sur Terre. Nous serons en direct dans un instant de la Cité de l'Espace à Toulouse pour vivre la descente de l'astronaute vers le Kazakhstan. Il sera question bien sûr de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons en discuter avec un climatologue américain. On vous parlera de la nouvelle détection directe d'ondes gravitationnelles et puis on embarquera à bord du voilier Tara pour une odyssée dans le Pacifique au chevet des coraux. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre dès maintenant en direct avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot clé l'attaque. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission préparée par Chantal Le Montagnier avec Benoît Tonson.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Monsieur, this is Thomas on board the space station. I read you loud and clear. How do you read me?
Voilà, il y a 14h06, la voix de Thomas Pesquet, sans plus attendre, grâce aux équipes techniques de France Bleu Toulouse, direction la Cité de l'Espace, où nous attendent justement l'astronaute Michel Tonini et le président de l'ESA Medical Board et médecin Bernard Comet. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à Philippe Hélin-Réjose de Ciel Espace qui est à mes côtés en studio. Bonjour,
bonjour
Philippe.
Mathieu.
Michel Tonini, le public toulousain est près de vous pour suivre la descente de Thomas Pesquet.
Alors, on est à la Cité de l'Espace et je peux vous dire que la cité est vraiment pleine de monde. Il y a des gens dans les Soyouz, à côté des fusées. Ils sont en train de regarder l'exposition astronaute. Enfin, c'est vraiment un événement qui est extrêmement bien vécu ici à la Cité de l'Espace.
Avec la reprise du direct à 14h30 hein, sur le site justement de la Cité de l'Espace pour ceux qui souhaitent suivre vraiment les derniers kilomètres de Thomas Pesquet avant d'arriver au Kazakhstan. Où en est-il justement en ce moment même où nous nous parlons, Michel Tonini? Où se trouve-t-il?
Alors, il se trouve dans le vaisseau Soyouz qui s'est déjà séparé de la station spatiale il y a un petit moment. L'ouverture des crochets s'est faite sans problème. La séparation avec les ressorts du Soyouz ont été faits également sans problème. Et les allumages, les premières impulsions moteurs ont été faites. Il n'y a plus qu'à attendre de retrouver l'orbite numéro 1 qui passe au sud de l'Amérique du Sud pour faire l'allumage du moteur principal qui va se faire vers 15h15 pour le toucher des roues à 16h10 ou 16h09.
Ouais, donc tout est, Philippe, absolument millimétré au centimètre près, à la minute près. Hein.
Écoutez, pour l'instant, tout se déroule bien. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça se déroule mal. Le Soyouz est un vaisseau spatial très fiable, qui a bien marché à de nombreuses reprises. Tout se déroule bien. Il y a une séquence automatique après qui va s'enclencher à partir du moment où il y aura l'allumage du moteur qui va durer 5 minutes. C'est 5 minutes qui servent à freiner en quelque sorte le Soyouz pour qu'il soit un peu plus attiré par la Terre et pour qu'il finisse par redescendre. Alors il va perdre un petit peu de vitesse, pas beaucoup, mais ensuite il rentrera dans l'atmosphère à une très très grande vitesse, sera encore à 27 000 km à l'heure.
Bernard Comet, alors évidemment, on se soucie de la santé, non seulement de Thomas Pesquet, mais de son camarade russe, parce qu'il n'est pas tout seul dans le Soyouz. Hein.
Oui, oui, ils sont deux et reviennent d'une mission longue, puisqu'ils sont restés tous les deux plus de 197 jours. Et généralement, on est nettement plus éprouvé lorsqu'on revient d'une mission longue.
Oui. Alors justement, est-ce que vous avez des nouvelles de la santé de Pesquet dans cette phase tout à fait particulière là de retour?
Non. On n'a aucune nouvelle. Les dernières liaisons qu'il a eues avec son médecin d'équipage, qui est Brigitte Godard du MEDES, datent de hier. Elle nous a envoyé un message circulaire disant qu'elle lui avait donné toutes les instructions pour préparer son retour. En particulier, il faut qu'il prenne un peu de sel, pas mal d'eau, et surtout qu'il prenne des antinopathiques pour faire face au mal de terre.
Oui. Alors là, il va être très très secoué avant d'arriver au Kazakhstan. Hein.
Ben, je ne sais pas, il vaut mieux demander à Michel, hein, qui a vécu ça de très près. Quand je l'avais récupéré en 92, je lui avais demandé comment ça s'est passé. Il m'a dit viril.
C'est ça. Michel Tonini.
C'est sportif.
Alors, Michel Tonini, puisque vous avez vécu effectivement à deux reprises un retour sur Terre après vos missions de 1992 et 99, vraiment, le retour, c'est une opération très délicate au cœur d'une mission spatiale comme celle-là?
Bah, c'est sûr qu'on va rentrer dans l'atmosphère avec une vitesse assez élevée. Donc
laquelle?
La moindre erreur c'est 28 000 km à l'heure. On est en orbite à 28 000 km à l'heure. Donc la moindre erreur de quelques secondes ou même d'une seconde donne un point d'impact qui peut être vraiment très différent du point prévu. Il y a des phases critiques hein, comme l'allumage du moteur, la séparation du compartiment moteur et du module orbital, la rentrée dans l'atmosphère avec le bon angle de rentrée. et ensuite l'allumage des parachutes et le contact avec le sol. Donc il y a plusieurs phases qui sont critiques parce qu'elles se font à très grande vitesse et elles se font en rapprochement du sol.
Lorsque vous disiez en 92 à Bernard Comet que ce retour avait été viril, qu'est-ce que vous entendiez exactement? Il y a quoi derrière viril? Il y a ça fait très très peur, il y a c'est dangereux?
Non. C'est pas dangereux, ça fait pas très peur, mais c'est très secoué parce que quand vous avez fini la décélération atmosphérique qui est à 5G, donc elle se passe normalement, c'est pas énorme 5G, la capsule va rentrer tout doucement, elle va se prendre un axe vertical, donc elle va tomber à la verticale, et lorsqu'elle a fini la décélération, avant que l'allumage du parachute se fasse, il y a environ 50 secondes où on est en chute libre comme ça, et donc là c'est un peu inquiétant, mais bon, le parachute s'ouvre finalement, et comme il s'ouvre avec un point d'attache qui est sur le côté du Soyouz, et donc on est désaxé par rapport au poids du Soyouz, le système du Soyouz se met à tourner sur lui-même comme une vrille extrêmement rapide. C'est une vrille, c'est un tour en 4 secondes, là c'est un tour par seconde, donc c'est quand même mouvementé. Et ça va durer quelques secondes avant que la tâche se désolidarise pour que le parachute et le Soyouz se mettent de façon symétrique. Et après, le parachute principal va s'ouvrir. Et là, c'est assez calme. Donc là, on a une période qui est calme quand le parachute principal est ouvert. On ouvre vers 9 km d'altitude. Et là, on descend jusqu'au sol, c'est assez calme. Et après, il y a le contact avec le sol qui est vraiment, vraiment fort. Ils ont fort. Nous, on a touché fort. Et en plus, comme il y avait un peu de vent, le vaisseau a un petit peu tourné. Donc, on a été un petit peu bousculé pendant l'atterrissage.
Est-ce qu'il y a des risques, Philippe Hénarejos?
Oui, il y a toujours des risques, même si, encore une fois, le Soyouz est un vaisseau très fiable. Il y a des risques parce que, comme on le disait au début, on part d'une vitesse énorme. Il y a énormément d'énergie dans la boucle, si vous voulez. Et donc, dès que quelque chose doit se passer de travers, ça va avoir des conséquences assez dramatiques rapidement. Par exemple, la coéquipière de Thomas Pesquet, qui reste dans la station encore 3 mois, Peggy Whitson, l'américaine, avait vécu un retour particulièrement difficile. Mmh. Au moment de la séparation, le Soyouz, en gros, c'est un train. Il y a le moteur à l'arrière, là où sont les astronautes au milieu, un compartiment, et il y a un compartiment orbital qui est au-dessus. Et pour que les astronautes puissent rentrer sur Terre, il faut se séparer des deux compartiments, celui orbital et les moteurs, pour qu'il ne reste plus que le compartiment de rentrée. Eh bien, cette séparation n'avait pas fonctionné. Ça posait un problème, parce que le Soyouz était de manière latérale, il commençait à rentrer dans les couches denses de l'atmosphère, donc il y avait un échauffement, il faut voir que ça va jusqu'à 2000 degrés. Donc ça commençait à fondre et le bouclier n'était pas orienté comme il fallait, ça n'allait pas. Et par chance, à force, les deux compartiments se sont séparés par la chaleur qui a fait fondre les boulons et le Soyouz lui-même s'est remis automatiquement avec le bouclier à l'avant et ça s'est bien fini. Mais on voit que même dans quelque chose qu'on pourrait penser assez routinier depuis toutes ces décennies, il y a toujours un risque. Dès que quelque chose va de travers, ça peut prendre des proportions un peu difficiles.
Et Michel Tonini, on a beau y être préparé comme vous en tant qu'astronaute, le fait même de le vivre concrètement, c'est très différent des entraînements.
Alors la différence qu'il y a entre le vrai vol et l'entraînement, c'est que pendant l'entraînement, nous avons toutes les pannes possibles imaginables, alors qu'en général, le vol se passe bien. Les incidents qui ont été relatés juste avant que je parle sont vrais, et c'est arrivé. On a eu quand même 2 ou 3 retours d'urgence qui imposent une séparation par les thermodatchiques qui permettent de séparer par la montée en température, le module orbital et le compartiment moteur, mais aussi qui impose un retour secours au niveau trajectoire de rentrée. Ça s'appelle un retour balistique. Mmh. Auquel cas, on va rentrer sur une pente plus pentue et au lieu de prendre 5G, on prend 8G. Et dans le cas de Peggy Whitson, si je me souviens bien, elle s'était posée à 500 km en avant du point d'atterrissage. Donc il a fallu, maintenant, on a systématiquement 2 hélicoptères qui sont sur ce point secours.
Alors donc l'atterrissage est prévu à 16h09, hein, Philippe, très exactement. Ah oui, ça veut dire que finalement pour rentrer de l'espace, il faut quoi? Prendre un Paris-Marseille quasiment, hein. C'est un petit voyage en TGV, non?
C'est pas loin du tout. Ouais. Si vous regardez, ils sont à 250 km d'altitude. Mmh. Ils vont quand même à 28 000 km à l'heure, donc ouais. Ça va vite. Alors, ce qu'il y a, c'est que à partir du moment où il y a l'activage des moteurs pour freiner, Ça descend un peu lentement d'abord, c'est pas immédiat. Mmh. Et là où les choses s'emballent finalement, c'est quelques temps plus tard, quand le vaisseau arrive dans les couches vraiment denses de l'atmosphère, là le freinage commence à être important. D'ailleurs il passe de la gravité zéro à 4G, hein, mmh. donc 4 fois le poids de leur corps, donc c'est un freinage assez... Bon, pour les astronautes c'est pas grand chose, pour nous ça serait quand même quelque chose de, d'assez fort. Et là en gros je dirais qu'à partir de ce moment là il y a une grosse vingtaine de minutes entre le moment où on est encore à peu près à 140 km d'altitude et le moment où on va toucher le sol.
Mmh. Vous avez l'œil sur le Soyouz en ce moment, Michel Tonini, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous recevez des images en ce moment ou pas?
Alors là, je suis avec Bernard Comet. On a l'écran du TSUP, qui est le centre de contrôle du vol, qui est à Kaliningrad, au nord de Moscou, et qui montre la trajectoire du Soyouz, ainsi que tous les paramètres de séparation du Soyouz.
Ouais. Alors donc là,
tout est nominal.
Ouais. Et les choses se passent bien, a priori pour l'instant, pas de problème majeur.
Non, c'est bien, c'est très bien là.
Alors, Bernard Comet, parlez-nous un petit peu justement de l'aspect santé, préparation physique, psychologique également pour un astronaute. Qu'est-ce qui va se passer là à partir du moment où Thomas Pesquet va arriver, poser les premiers pieds sur le sol du Kazakhstan?
Bon, comme je vous l'ai dit, il va être un peu plus affecté que s'il avait fait un vol de courte durée. En particulier, il va être victime de ce qu'on appelle le mal de terre. Le mal de terre, c'est exactement ce que ressent un navigateur qui rentre d'un long périple. Quand il monte sur le quai, ben le quai bouge, il a des déséquilibres, il a des nausées et il peut même vomir. Et les astronautes, après des missions longues, comme celle qu'a eue Thomas, présentent très souvent le mal de terre. Donc ils ont des nausées. Et donc on les extrait de la capsule, on les porte et on les met sur un siège où ils ont le temps de se rafraîchir, hein, parce que la capsule est quand même relativement chaude. Et là, il y a un point presse où on a pu voir des astronautes même vomir durant ce moment-là. Ensuite, ils tiennent pas très bien sur leurs jambes parce que, premièrement, ils ont un phénomène qu'en médecine, on connaît bien. Après un alitement prolongé, si on lève brutalement une personne, elle a une baisse de sa pression sanguine et il présente une perte de connaissance due à ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Alors Thomas, avant l'atterrissage, aura essayé de lutter contre ça par deux moyens. Il porte un pantalon à tiges qui lui servent les mollets et les cuisses. Et ce pantalon à tiges, il faudra le resserrer dans la tente qui est à quelques mètres du siège sur lequel on lui aura permis de reprendre ses esprits.
Ouais.
Et en plus, on lui a demandé de prendre du sel et de l'eau dans les dernières minutes où son scaphandre est encore ouvert. Comme ça, il s'hyperhydrate et comme ils ont extrêmement soif et ils sont déshydratés, cela leur permet de mieux tenir la position debout.
Mais Bernard Comet, justement, quand on extrait les astronautes de la capsule, il y a plus de tonicité en fait dans les muscles, ils sont comme tout mous, c'est ça?
Eh bien, ils sont, non, pas tout mous, il faut pas exagérer, mais enfin, ils ont perdu beaucoup de force. En particulier, il y a une fonte musculaire qui est forte. Vous vous rendez compte, pendant 6 mois, vous n'avez même pas eu à porter votre poids. Ouais. Donc, c'est une situation qu'on dit d'hypersédentarité. Et on leur fait faire des exercices 2 fois par jour, deux heures de sport tous les jours. Et malgré cela, ils perdent quand même du muscle. Mmh. Et ainsi que d'ailleurs, ils se déminéralisent. La charpente osseuse ne se reconstruit pas de manière, je dirais, harmonieuse.
Donc il y a beaucoup d'analyses là, qui attendent Thomas Pesquet à son arrivée?
Oui. Il y a tous les bilans médicaux systématiques pour être sûr que on n'a pas atteint justement sa charpente osseuse. On suit la récupération de la charpente osseuse. On suit sa récupération de la capacité à l'effort. Hein. Les astronautes que j'ai reçus après des vols de longue durée, j'en ai récupéré 2, étaient quand même étonnés de voir l'essoufflement qu'ils ressentaient lorsqu'ils montaient un étage.
Oui.
Et ils m'ont tous les deux dit, mais comment ça se fait? Pourtant, j'ai fait tous les exercices qu'on m'a demandé à vol. Et en fait, La sédentarité est tellement forte là-haut qu'on perd toute capacité à l'effort.
Oui. Il faut du temps pour se remettre justement d'un voyage spatial. Comment le corps va pouvoir justement réapprendre le cours normal des choses?
Alors, faut pas aller trop vite. Hein. J'ai vu des astronautes après des vols courts parce qu'ils reprenaient les efforts de musculation de manière un peu trop intensive, ouais. qui ont eu des lumbagos. Des lumbagos, ils se sont bloqués le dos. Hein. Donc, en fait, on essaie d'être plus progressif. Ils travaillent en décharge, hein, exactement comme quelqu'un qui est en rééducation, et on les fait travailler les premiers jours dans l'eau, et petit à petit, on monte un peu en charge. Alors, sur le plan musculaire, ils récupèrent, je dis, en quelques semaines, hein, entre 4 et 6 semaines. Sur le plan osseux, c'est beaucoup plus long. Hein, ça peut même prendre une année, surtout si l'astronaute reste un peu sédentaire et ne fait pas assez d'exercice physique.
Ouais. Il paraît qu'il a pris plusieurs centimètres dans l'ISS, Thomas Pesquet, c'est vrai ?
Ben oui, mais vous aussi, hein, tous les matins quand vous vous levez, vous avez pris quelques centimètres.
Mais pas autant que lui quand même.
Non, pas autant que lui, parce que lui est resté très longtemps sans mettre sa colonne vertébrale en charge. Ouais. Donc les noyaux entre les corps vertébraux sont hydrophiles, ils absorbent de l'eau qui écarte les corps vertébraux. Mmh. Et à la fin, après une exposition extrêmement prolongée, donc de 6 mois, ils ont gagné entre 4,5 et 6 centimètres. Alors que vous, le matin, quand vous vous levez, vous avez gagné 2 cm, 1,5 à 3 cm, disons. Pas partout, hein, uniquement la colonne vertébrale.
On a bien compris.
Comme me dit Michel.
On a bien compris. Pierre de Parsco, une question, vous qui avez filmé la goélette Tara.
Oui, à vous entendre sur ces difficultés d'un retour sur Terre après quelques mois en orbite autour de notre planète, je voulais savoir comment on pouvait anticiper une arrivée sur Mars après plusieurs longs mois, plus longs que cela d'ailleurs, un voyage spatial aussi long. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer des retours, des arrivées de spationautes sur la surface de la planète rouge ?
Bon, quand les astronautes se poseront sur Mars, hein, ils y resteront, je pense, pour une longue période, hein, la surface de Mars. Et s'il y a un problème de sécurité qui se réhabitue, on attendra un ou deux jours avant de leur demander de faire une sortie extra-habitat, hein, pour se balader à bord, surtout s'il y a des problèmes de sécurité et de récupération. Donc, on ne prendra pas de risque.
Hein, Philippe Hénarejos.
Oui, sur Mars, pour y aller, ils mettront 6 mois. Donc, c'est exactement le temps que Thomas Pesquet a passé dans la station spatiale. Ouais. Bon, ils seront un petit peu plus avantagés parce que la gravité est un peu moins forte sur Mars aussi. Mmh. C'est un tiers de la Terre. Mais effectivement, il faudra sans doute... Ce ne sera pas comme les premières expéditions lunaires où les gars se posaient et quelques heures après, ils branchaient leur tuyau, leur scaphandre, ils sortaient. Là, il faudra sans doute qu'ils s'acclimatent effectivement un petit peu.
Mmh. Michel Tonini, est-ce que vous avez, vous, des séquelles de vos deux voyages spatiaux, vous avez très très bien récupéré après ou pas?
Je vais demander à mon médecin d'équipage qui est à côté, Bernard Comé, si j'ai des séquelles.
Non, pour l'instant ça va. Je vais vous dire, il a même mieux vieilli que moi. On a le même âge.
Est-ce qu'il y a un avantage pour
le
vieillir?
On a le même âge. Ouais. Son premier vol, il l'a fait en 92, donc il y a 25 ans. Ça nous donne un sacré peu de vieux. Eh bien, il apparaît nettement plus jeune que moi.
Ça voilà. Aide à rester jeune, Michel Tonini, alors, les voyages spatiaux?
Bah, ça, c'est bon. Il y a une partie génétique et puis une partie la vie, parce que c'est un peu une vie de monastère. Hein. On vit au simulateur tous les jours, donc pas la fête, pas d'alcool. Il faut se coucher tôt tous les soirs, travailler week-end. Il rigole, Bernard Comet, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est la vérité à 95%.
Michel Tonini. On voit dans la presse aujourd'hui, et puis en ce moment même, hein, tous les journaux, tous les médias, la télévision et la radio parlent de ce retour de Thomas Pesquet. Le retour du héros, hein, c'est des titres qu'on a pu lire dans la presse aujourd'hui. C'est très nouveau ce qui se passe, parce qu'il semblerait quand même que depuis quelque temps, le retour des astronautes n'intéressait plus grand monde. C'était devenu très banal. Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi cet effet Thomas Pesquet exactement?
Alors, d'abord, c'est la première fois qu'on a un vol de longue durée de 6 mois depuis presque 20 ans. Le dernier vol, c'était Jean-Pierre Ignoret en 99. Mmh. Après, on a eu un petit vol assez court en 2008. Et là, ça fait donc presque 20 ans qu'on n'a pas un vol de cette durée. Deuxièmement, c'est la première fois qu'on fait un vol dans le secteur USOS, le secteur américain, qui nous a permis d'avoir les installations de la station spatiale, qui a un très bon débit par rapport au sol, avec des appareils photo de très bonne qualité. Donc Thomas a pu faire des photos qui sont excellentes. Il a pu communiquer avec les médias et avec la télévision avec une qualité qui était bien meilleure qu'avant. Mmh. Donc les gens ont pu voir une image qui était beaucoup plus correcte, beaucoup plus jolie qu'auparavant, que ce soit en termes de vidéos, de photos ou de transmission au sol.
Ah, c'est le côté joli finalement qui fait la différence.
Non, capacité technique de télétransmission.
La capacité, ils ont une antenne KU-band dans le KU qui marche très très vite, et donc on a des débits qui sont vraiment très importants.
Philippe Hénarejos, phénomène médiatique Thomas Pesquet, c'est étonnant quand même, non?
Il est dû aux moyens de communication, essentiellement, au fait que Thomas Pesquet appartient à une génération d'astronautes qui est plus porté vers la communication à l'extérieur quand même. On a connu quand même pas mal au début de la conquête de l'exploration spatiale, des astronautes qui parlaient pas beaucoup, même ceux qui sont allés sur la Lune, ça a été quand même difficile de leur faire raconter ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient fait. Donc lui est beaucoup plus il a beaucoup plus ça dans les gènes en quelque sorte, c'est avec lui, c'est son époque, et il en profite avec des moyens qui sont considérablement plus importants qu'à l'époque. Donc effectivement on le voit mieux, on voit ça plus joli. Et donc, c'est plus partagé par plus de monde.
Romain Troublé.
Je te parie que nous, on a mis ce système de bande KU de technologie de transmission pour Tara au large. Et c'est vrai que depuis qu'on a fait ça, on a beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges avec les gens qui suivent ce projet et qui se plongent dans l'aventure, en fait.
Comme Est-ce qu'on aura Thomas Pesquet sur Tara?
Ah, il est invité permanent. Donc, il faudra que je le dise quand il arrive, mais voilà.
Il pourrait venir vous rejoindre sur la goélette.
Bien sûr, c'est parce qu'en plus, le corail que Tara étudie aujourd'hui, c'est le seul animal qu'on peut voir de l'espace.
Oui, on va en parler avec vous dans un instant, puisque ça fait l'objet d'un documentaire. Michel Tonini, on va vous laisser dans quelques instants. Simplement, les minutes, les heures qui viennent, donc, elles sont réglées comme du papier à musique. On disait 15h15, donc c'est le freinage. Et puis ensuite, l'atterrissage prévu à 16h09, donc au Kazakhstan. Et le direct qui va reprendre à la Cité de l'Espace, là, dans 4 minutes. Pour tous ceux qui souhaitent voir les images, qu'est-ce qu'on va voir en se branchant sur votre site?
Alors, vous allez voir les images qui viennent du centre de contrôle, qui donne les paramètres du vaisseau Soyouz, et peut-être aussi quelques images qui sont prises de la station spatiale sur le Soyouz. Donc, on voit le Soyouz en train de se séparer de la station.
Et on aura les premiers mots de Thomas Pesquet, a priori, à quelle heure?
Alors, s'il se pose à 16h09, le temps qu'on ouvre les écoutilles qui prennent l'hélicoptère et qui reviennent sur le terrain d'atterrissage, je pense environ une heure après. Mais on verra des images bien, bien avant, parce qu'il y a une équipe de journalistes qui est sur place. Donc vous verrez les images avant de l'entendre parler.
Voilà, donc on va suivre tout ça sur, entre autres, le site de la Cité de l'Espace, où le public vous a rejoint en ce moment même à Toulouse, pour le retour du héros normand Pesquet sur Terre depuis l'ISS après son voyage de 6 mois. Merci beaucoup Michel Tonini et Bernard Comet. Et puis Philippe, vous restez avec nous, parce qu'il y a une autre actualité de l'espace et de l'univers dans un instant. Merci à vous, avec la troisième détection directe des ondes gravitationnelles.
Sur l'étoile, soir se livre, fixe la lune en équilibre, tendre son âme. Et dans le club, leur danse la triste. Quand lui s'élance le disotiste, quand passe l'heure qu'il espère, qu'il enlace et qui prend son âme. Perdra celui qui désespère, un peu comme lui si sincère, s'ils écoutent enfin en frère la même musique, quelqu'un rêve qui tendrait son âme. Forte insistait à le faire descendre, lui résistait. Le feront descendre s'ils insistent. Verront s'épandre un volcan triste, cendre et love. Le sommet penché, il pique. Solides sont les allées publiques. Contre l'âme, les voix cognent et les coups des femmes attendent cela.
François and the Atlas Mountains avec Tendre et l'âme.
Le club carré sur France Inter.
Actualité chargée dans notre club, on reviendra bien sûr sur la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. On va en parler dans un instant avec un climatologue américain. On partira sur la goélette Tara également pour évoquer la disparition inquiétante des coraux. Et puis dans l'actualité aussi, Philippe Hénarejos, il y a une nouvelle détection d'ondes gravitationnelles.
Et oui, l'observatoire LIGO, donc qui se trouve aux États-Unis, qui essaie de détecter ces espèces d'oscillations de l'espace-temps, hein, qui sont très infimes, en a détecté une troisième, il y en avait déjà eu deux. Ça a eu lieu le 4 janvier dernier, donc là on vient d'avoir les résultats avec la publication scientifique. Et donc c'est toujours le même scénario, ce sont deux trous noirs qui se tournaient l'un autour de l'autre, gentiment, mais pas si gentiment que ça finalement, puisqu'ils se sont rapprochés jusqu'à fusionner. Et c'est en fusionnant que ça fait secouer un peu l'espace autour d'eux et que ces ondes se propagent jusqu'à nous. C'est comme ça qu'on les a détectées. Alors c'est quand même intéressant cette troisième détection.
Alors on va en parler avec Éric Gourgouillon qui est en ligne avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, astrophysicien au laboratoire Univers et Théorie de l'Observatoire de Paris. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre cette nouvelle détection directe et la toute première? Parce que le scénario semble le même, a priori. Deux trous noirs qui fusionnent.
Oui, tout à fait. C'est le même type d'objet qui ont fusionné cette fois-ci. L'événement est un peu plus loin. Il est deux fois plus loin. Il est à peu près à 3 milliards d'années-lumière. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes masses importantes des trous noirs qui ont été mesurés, c'est-à-dire que c'est des trous noirs qui atteignent jusqu'à 30 masses solaires. Donc ça confirme un peu la surprise de la première découverte. On n'attendait pas des trous noirs aussi massifs pour ce genre d'événement, en fait.
Et les trous noirs, c'est la seule façon de détecter les ondes gravitationnelles actuellement ?
Non, on attend aussi un signal qui serait très intéressant pour l'astrophysique. Ce serait le même genre d'événement, la spirale de deux objets qui finissent par fusionner, mais avec au moins une étoile à neutrons. C'est-à-dire que ça pourrait être un système trou noir étoile à neutrons ou carrément un système de deux étoiles à neutrons. Et ça, ce serait extrêmement intéressant pour la physique des objets compacts et plus particulièrement des étoiles à neutrons.
Ça veut dire qu'on avance encore ? Il y a de la connaissance là qui se fait autour de cette nouvelle détection, Éric Gourgouillon ?
Oui, il y a eu notamment un nouveau test de la relativité que cette détection a rendu possible. La relativité, parce que c'est justement elle qui prédit l'existence des ondes gravitationnelles. Et dans la théorie de la relativité d'Einstein, les ondes gravitationnelles se propagent à exactement la vitesse de la lumière. Et donc avec cet événement qui était très distant, encore une fois, 3 milliards d'années-lumière, eh bien on a pu tester si les ondes se propageaient toutes à la même vitesse, c'est-à-dire si la vitesse ne dépendait pas de la fréquence des ondes, et on a trouvé que non. Donc ça, c'est une confirmation de la relativité générale d'Einstein.
Philippe Hénarejos.
Alors moi, ce que je note en plus dans cette nouvelle détection, c'est qu'il semblerait que le phénomène ait donné un autre indice aux astrophysiciens, c'est-à-dire que les deux trous noirs, alors faut imaginer, c'est avec les mains, mais deux objets noirs et ronds qui tournent sur eux-mêmes, un peu comme une planète, eh bien, ils ne tourneraient pas sur... Avant de se fusionner, ils n'auraient pas tourné sur un axe qui serait été parallèle. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'on commence à explorer un petit peu ces objets. Ça, ce que ça nous dit, c'est que finalement, ces deux trous noirs se sont formés, ils ont eu leur vie avant, et très certainement... Ils se sont rencontrés, ils sont rentrés en collision, et ce n'était pas un système binaire comme il y a des étoiles binaires qui naissent, parce que si c'était le cas, leurs axes de rotation auraient été les mêmes. En fait, ce que ça veut dire, en voyant au-delà de ce simple fait, c'est que l'astronomie gravitationnelle est en train de prendre son envol. C'est-à-dire qu'on apprend, on réussit à avoir des informations qu'on n'avait pas sur ce bestiaire d'objets. Alors, Éric Gourgoulon parlait d'étoiles à neutrons. On attend, effectivement, cette population d'étoiles à neutrons qui fusionnent avec des trous noirs, mais là, on a des trous noirs qui déjà nous indiquent par quel processus ils arrivent à fusionner. Alors certains sont nativement ensemble, ils tournent comme des étoiles doubles l'un autour de l'autre, et d'autres, comme ceux-là, semble-t-il, se sont rencontrés un peu par hasard en sombrant vers le centre d'un amas stellaire. Et donc ça, c'est très intéressant. J'ajoute que j'ai vu en venant ici qu'une équipe qui travaille dans le domaine des rayons gamma avec un satellite italien dit qu'ils ont peut-être vu... Il faut être prudent, ils ont fait une publication, peut-être vu une contrepartie en rayon gamma de cet événement, c'est-à-dire qu'on aurait à la fois... qu'on aurait à la fois détecté la fusion par les ondes gravitationnelles, mais aussi par des photons électromagnétiques qui sont arrivés dans un détecteur qui se trouve sur un satellite, ce qui permettrait de recouper les informations. C'est encore à prendre avec des pincettes, oui, mais il y a quand même une publication qui suppose ça.
Éric Gourion.
Oui, c'est assez délicat comme observation, puisqu'on ne connaît pas très bien la position de l'événement dans le ciel. Il y a une grande barre d'erreur. Avec deux détecteurs seulement, on n'a pas une très bonne précision de pointage, entre guillemets. Quand Virgo, le détecteur franco-italien, fonctionnera, là, on pourra mieux localiser l'événement dans le ciel. Et donc, effectivement, il y a un instrument agile là qui a détecté un signal électromagnétique, mais ça peut être une coïncidence, simplement, hein, puisqu'on ne sait pas exactement où s'est produit l'événement. Et notamment, il y a un satellite qui s'appelle Fermi qui, lui, n'a rien vu du tout, par exemple. Donc, voilà, donc tout ça, c'est à confirmer. Si c'est vraiment deux trous noirs isolés, normalement, on ne s'attend pas à une contrepartie électromagnétique. Hein, il ne devrait pas y avoir émission de photons, puisque les trous noirs sont des déformations de l'espace-temps. Donc, c'est un événement purement gravitationnel, purement spatio-temporel, la fusion de deux trous noirs. Donc, a priori, dans la relativité générale d'Einstein, il n'y a pas émission d'ondes électromagnétiques lors d'un tel événement.
Éric Gourion, ce sera ma dernière question. Philippe le disait, c'est une nouvelle astronomie qui s'ouvre véritablement avec les ondes gravitationnelles.
Oui.
Hein. C'est pour comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est vrai que là, c'est la troisième détection, on en parle moins que la première en septembre 2015. Mais là, aujourd'hui, on va en découvrir régulièrement des ondes gravitationnelles. Ça va devenir banal dans le milieu de la physique ou pas?
Oui, c'est ce qu'on espère. Ça devient une nouvelle forme d'astronomie, donc on appelle l'astronomie gravitationnelle. Là, les détecteurs vont être améliorés. Il y a Virgo qui va rejoindre. Il y a également un détecteur japonais qui s'appelle Kagra, qui est presque fini. D'ici quelques années, il y aura au moins 3 ou 4 détecteurs à la surface de la Terre. Et avec ça, on observera régulièrement ce genre d'événements, voire d'autres événements, comme par exemple des explosions de supernovae ou des étoiles, des pulsars, des étoiles neutrons en rotation rapide qui émettraient des ondes gravitationnelles de manière continue, non plus un phénomène cataclysmique comme celui-là. Donc il y a toute une panoplie de sources qui est attendue par les astrophysiciens. Mmh. Et donc on espère effectivement beaucoup de cette nouvelle astronomie.
Et Einstein a toujours raison en attendant.
Pour l'instant, voilà, tous les tests qu'on a pu faire avec les deux premiers événements, puis avec celui-là, donnent raison à Einstein et sa théorie de la relativité générale.
Merci beaucoup à vous, Éric Gourion, pour vos explications. Donc, troisième détection directe d'ondes gravitationnelles, ça vient de sortir, publié hier soir. Philippe Hénargeos, merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous filez parce que vous avez à commenter l'arrivée de Thomas Pesquet, qui est en route pour la Terre, comme chacun sait. Et bien, nous, on part pour le Pacifique. Dans un instant, ce sera le prochain sujet de notre club, puisque nous irons à bord de la goélette Tara pour prendre le pouls des coraux. Call out is Hendrix. I promise you, swag. Let me know. Yo. Percocet. Miley Percocet. Percocet. Miley Percocet. Rep the set. Gotta rep the set. Chase a chick. Never chase a bitch. Chase no bitch. Mask on. Fuck it. Mask on. Mask on, fuck it, mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitch. 2 cups, toast out with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, I'm a living proof. And compromising half a million on the coup. Drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. Pink money, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising Biscayne. Top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Percocet, Miley Percocet. Percocet, Miley Percocet. Rep the set, gotta rep the set. Chase a chick, never chase a bitch. Being fine, mask on, fuck it, mask on. Being fine, mask on, fuck it, mask on. Being fine, Percocet, Miley Percocet. Being fine, chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitches. Photo maybe, I drive anything. Buy my rings, make them go insane. My guillotine. Draping melters in, taking beams, go to those extremes. Let's go. Parliament, calamari wins, parlay in Vegas, we was in attendance. Let's go. Before the business, Theodore lenses, Theodore prescriptions, focus on the mission. Put my foot intermission, hold on. Never take a break, we can't pull on. Switch state. Off et Future à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Et 10 ans après sa première dérive arctique, la goélette Tara se lance donc dans une nouvelle grande expédition Tara Pacifique. Et mercredi soir sur France O, dans le cadre d'une grande soirée sur l'océan, vous pourrez voir à 20h55 le film Tara, l'Odyssée du Corail, un documentaire tourné en Polynésie auprès des populations insulaires qui sont directement touchées justement par la disparition du corail. Pierre de Parsco, vous êtes le réalisateur de ce film. Et Romain Troublé, vous êtes directeur général de la fondation Tara. Alors cette mission océanographique, donc c'est le Pacifique, la goélette continue d'ailleurs son chemin en ce moment. Elle est partie des îles Fidji, c'est ça, hier? Ou elle est arrivée?
Elle est arrivée aux Fidji hier, ça fait un an qu'elle a quitté la France. Elle est arrivée aux Fidji hier.
Quelle est l'ambition là maintenant de cette nouvelle expédition?
La mission en cours, elle est d'aller étudier sous l'eau avec des masques et des tubas et des éprouvettes ce que Thomas Pesquet voit de l'espace depuis qu'il est dans l'espace, les grandes barrières de corail de la planète. Mm-hmm. Et cette mission va amener Tara à travers tout le Pacifique, à travers une quarantaine d'états insulaires, pour essayer d'étudier leur récif corallien et de comprendre leur adaptation au changement climatique, passé, présent et futur, et de comparer les stratégies de chacun de ces récifs face à ça.
Et il y a urgence, Pierre de Parsco.
Absolument, nous on a été témoins effectivement des dégradations de ces récifs, c'est notamment ce que ce film raconte, notamment en Polynésie française entre Tahiti et l'archipel des Tuamotu, puisqu'on a découvert avec des scientifiques du CRIOP qui travaillent à Moorea notamment, des récifs qui étaient très très abîmés, parfois certains avec 80-90% de courants morts, là où on imaginait qu'il y avait encore il y a quelques années beaucoup de vie sur ces récifs-là, des récifs qui en plus sont assez éloignés des impacts humains. On a été travailler autour de certaines îles qui sont très éloignées des activités de pêche ou des activités littorales.
Et qui pourtant présentent des symptômes déjà de...
Absolument, d'un blanchissement très avancé, et ce qui est effectivement plutôt une très mauvaise nouvelle pour les prochaines années.
Donc vous êtes allé à la rencontre à la fois des populations et puis des scientifiques qui travaillent sur place, parce qu'il y a des laboratoires qui sont vraiment dédiés à cette question.
Des laboratoires du CNRS, en l'occurrence à Moorea, mais dans le monde entier, en fait, beaucoup de laboratoires. Ceux qui sont en pointe aujourd'hui, c'est les côtes australiens et principalement sur la Grande Barrière de Corail. Mais...
Donc dans le film, on découvre à la fois les médecins des coraux et les jardiniers aussi des coraux, parce qu'on voit qu'il y a différentes disciplines aussi qui travaillent sur ce thème.
Exactement, c'est assez vaste. Il y a effectivement quelques jardiniers, nouvelle profession créée, peut-être qui va avoir de l'avenir dans les prochaines années, puisqu'effectivement, il y a des scientifiques qui, avec l'aide de populations locales, travaillent à replanter des coraux élevés en laboratoire dans des lagons, puisque le corail, comme une plante, peut se bouturer. Et donc on peut espérer que, même si ça reste encore une goutte d'eau dans l'océan par rapport à cette problématique-là, que le corail pourrait revenir peu à peu dans des lagons qui étaient jusqu'alors dévastés.
Donc mobilisation générale, implication, sensibilisation auprès de la population et des bénévoles d'ailleurs qui vous aident, comme on va le voir dans cet extrait donc, qui sera diffusé dans votre documentaire mercredi soir sur France O.
Grâce à des plongeurs bénévoles et à des protocoles d'observation standardisés, les membres de RiffCheck fournissent gratuitement à la communauté scientifique des données sur l'état des récifs à l'échelle planétaire. Pour évaluer la bonne santé des récifs dans le lagon, les bénévoles encadrés par Mathieu doivent relever de nombreux indices sous la surface.
On note pas. Ouais. Celui-là, on note, c'est l'oursin crayon et le bénitier. Donc celui-là, si on le note, on fait attention aux catégories de taille, inférieur à 10, entre 10 et 20, 20 à 30, ainsi de suite.
En comptabilisant certaines espèces de poissons, d'algues ou de coquillages dans une zone définie, les plongeurs pourront dresser un état des lieux du récif et enregistrer d'éventuelles transformations. En comparant leurs observations avec celles de l'année précédente, les bénévoles espèrent constater une évolution de l'état de santé des coraux.
Voilà, Tara, l'Odyssée du Corail, Pierre de Parsco. Donc vous avez suivi vraiment l'évolution et le travail des chercheurs pour voir comment va évoluer la situation sur place.
Absolument. Et puis il y a autre chose, c'est que cette goélette Tara, elle sert aussi de laboratoire scientifique. Il y a différentes disciplines, des chercheurs qui viennent du monde entier, qui travaillent ensemble sous l'égide notamment du CRIOB, qui coordonne un petit peu ces recherches. Et c'est aussi l'occasion pour eux de déployer des protocoles qui sont tout à fait inédits, des prototypes aussi, afin de gagner du temps dans cette enquête et dans ces recherches. Donc on a eu la chance effectivement de suivre à la fois les inquiétudes Terre, et puis sur la ligne de front scientifique, de suivre un petit peu le travail de ces scientifiques.
Et tout le monde vraiment met la main à la pâte, Romain Troublé, les populations comme les scientifiques. Il y a vraiment une prise de conscience là-bas de la situation?
Ah bien sûr, il y a une prise de conscience. Ils avaient tous anticipé le phénomène El Niño qu'on a vu en 2016, le phénomène de réchauffement du Pacifique. Et tous avaient anticipé quelque chose, mais n'avaient pas anticipé autant d'impact. Et donc, population locale voit ce qui se passe, voit les changements. Les scientifiques n'arrêtent pas de revenir avec souvent de mauvaises nouvelles. Donc, bien sûr que tout le monde est concerné et il faut qu'on soit tous concernés. Plus que les habitants des îles au bout du monde, il faut qu'on soit tous concernés dans notre quotidien parce qu'on voit bien finalement que même des îles à 3000 km de n'importe quel homme, oui, par quelle humanité, sont aussi touchées que des îles près de chez nous. Donc nous, qui sommes très loin de ces îles-là, on a quand même un impact aussi.
Et on voit régulièrement encore cette semaine des publications sur l'accélération surprenante d'ailleurs de ce phénomène de blanchissement des coraux. Hein.
Absolument. Ce qui est très intéressant, c'est de voir les projections dans les prochaines années. C'est-à-dire que si on regarde les cartes, notamment du GIEC, qui ont été publiées, quand on regarde la zone équatorienne où la chaleur est la plus importante, on voit que les espèces ont tendance à disparaître et ont tendance à migrer. Donc en fait, on va vers effectivement une variation des zones coralliennes qui vont sans doute se porter plutôt vers les pôles que vers l'équateur.
Le corail, c'est un animal.
Oui,
il faut vraiment le voir comme
absolument,
ça.
Absolument, hein. Et pendant longues années de recherche, on avait du mal à le classer, cet animal. Ça a été une roche, ça a été un végétal, une plante, on ne savait pas trop. Et puis effectivement, au cœur de ce récif, eh bien, il y a un animal qui s'appelle le polype, qui est le plus petit individu de la colonie corallienne et qui lui vit dans un petit squelette calcaire qu'il se fabrique. Et ce corail se développe à la surface de ce squelette-là et les squelettes des générations précédentes vont former le récif corallien.
Oui.
Et il y a finalement une fine couche de vivant sur des squelettes qui forment aujourd'hui des montagnes sous-marines.
Alors ce qu'on découvre d'ailleurs dans le film...
Qui est marié avec une petite algue.
C'est ça.
Qui rend sa vie possible.
Ouais. Et alors ce qu'on voit, c'est le carottage des coraux. Alors on connaissait le carottage de la glace dans les pôles justement pour essayer de retrouver l'histoire et la mémoire, les archives du climat. Et on peut faire la même chose pour connaître l'histoire du corail.
Absolument. Il y a certains coraux qu'on appelle des coraux massifs, notamment certains qui s'appellent les porites, que l'expédition Tara collecte. On fait des carottes qui font à peu près 80-90 centimètres, et on sait que ces coraux-là, ils grandissent à peu près d'un centimètre par an.
Oui.
Donc on arrive en laboratoire à pouvoir évaluer un petit peu l'évolution du pH et de la température des océans dans les siècles et les années passées pour essayer de mieux anticiper, de comprendre ce qui se passera peut-être dans l'avenir.
Donc là on voit dans le film un bout de corail de 90 ans à peu près.
90 ans.
Ouais. Et il vous apprend quoi alors? Quelle sorte d'informations vous pouvez tirer de ce carottage?
En fait, c'est un peu comme le climat, c'est pour comprendre le climat aujourd'hui et demain. On a passé beaucoup, beaucoup d'énergie et de recherche dans les carottes antarctiques pour comprendre le climat de la planète depuis des millions d'années pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. En fait, c'est pareil pour un récif. L'idée qui est derrière tout ça, c'est que de comprendre un peu l'histoire de ce récif dans lequel on se trouve aujourd'hui avec Tara et sur lequel on étudie la biodiversité, la génomique, etc. Comprendre ce qui s'est passé avant pour essayer d'anticiper ce qui va se passer demain. Comment ce récif qui était là il y a 90 ans a résisté aux éventuels réchauffements, aux éventuels points d'acidification de l'océan pour essayer de prédire ce qui va se passer demain. C'est le même système, même démarche que la démarche climatique.
Ouais, Pierre de Parsco, on va parler du climat d'ailleurs dans un instant, on va rejoindre un climatologue américain. On découvre aussi donc le travail des scientifiques, des thésards aussi qui ont de bonnes idées. C'est le cas de l'un d'entre eux qui a inventé un outil au fond. Hein. Il en a fait son sujet de thèse et aujourd'hui c'est un outil qui est utilisé sur le bateau, l'Hyperdiver. C'est un scanner sous-marin, c'est ça, pour aller vraiment dans les microbes de l'océan.
Alors c'est un petit peu particulier en fait. Effectivement, c'est un chercheur indien qui a développé ce prototype qui a été testé pour la première fois durant l'expédition Tara Pacifique. Il s'agit d'un scanner avec une caméra hyperspectrale qui en fait va permettre de quelque part photographier à un instant T l'état d'un récif. Donc à quelques mètres de la surface du récif, cet appareil est déployé et comme une photocopieuse en fait va passer au-dessus et va donner en direct le type d'espèce, le nombre des espèces et plusieurs données qui vont apparaître sur cet appareil. Et en fait on gagne un temps infini par rapport à les observations classiques qui sont les observations à l'œil humain. Là dans cette course un peu contre la montre pour essayer d'en apprendre le maximum sur ces coraux, c'est peut-être le genre d'appareil qui servira demain d'exemple.
Romain Troublé, donc il y a une collecte d'échantillons qui se fait. Et déjà, ces échantillons-là qu'on voit dans le film, dans le Pacifique, sont déjà en métropole aujourd'hui.
Déjà, ouais. On a déjà fait 2000 plongées, je crois, au total. Et donc, il y a déjà plus de 10 000 échantillons qui ont été rapatriés dans les laboratoires.
Mm-hmm.
Et principalement au génoscope, à Ivry, puisque c'est là que tout le séquençage de l'ADN, de la génomique, va se produire.
Ouais. La cause de la disparition des coraux, on la connaît bien aujourd'hui, les activités humaines, le réchauffement climatique donc.
Alors pendant des années, les activités humaines étaient la première cause de disparition de corail. On s'aperçoit maintenant depuis une quinzaine d'années que le réchauffement climatique a pris le dessus de manière beaucoup plus importante.
Mm-hmm.
On a à peu près 20% des coraux qui ont disparu au cours des dernières années et on imagine qu'il y a peut-être la moitié qui sont avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête dans les prochaines années.
Mm. En tout cas, bravo parce que les images sont absolument magnifiques.
Merci.
On voit une pouponnière de coraux aussi aussi, et puis la façon dont ces coraux se reproduisent aussi. C'est une espèce de feu d'artifice de couleurs dans le Pacifique, c'est absolument génial. Et donc on pourra voir le film mercredi sur France O à partir de 20h55, c'est une grande soirée océan. C'est Tara, l'Odyssée du Corail, et puis ensuite on le verra en replay, évidemment, sur le site de la chaîne. On parlait à l'instant du réchauffement climatique et le monde entier consterné l'a donc appris hier de la bouche de son président. Les États-Unis se retirent de l'accord de Paris sur le climat. Michael Gill, bonjour.
Bonjour.
Merci. Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes professeur émérite à l'École normale et professeur à l'Université de Californie à Los Angeles. D'abord, une impression en tant que citoyen américain, en tant que climatologue. Comment vous avez réagi à l'annonce de ce retrait des États-Unis?
Eh bien, c'était en même temps attendu et choquant. Mmh. Ça reflète une certaine attitude obscurantiste qui est incroyable d'être retrouvé à la tête des États-Unis. C'est ce qui s'appelle en américain « know nothing ». Enfin, c'est vraiment l'obscurantisme au carré. Mais en même temps, je ne pense pas que ça soit aussi significatif que cela ne semble. Comme d'autres actes de cette administration, ça risque de ne pas survivre à certaines réactions. Nous avons déjà celle des industriels, pas seulement de Silicon Valley, qui elle aussi n'est pas inattendue, mais aussi celle d'Exxon, qui a déjà déclaré que c'est clair qu'il faut aller ailleurs et pas seulement dans le pétrole. Et finalement, évidemment, du groupe au cœur duquel se trouve Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, où j'ai travaillé précédemment, et du gouverneur de Californie, etc. Donc, je pense pas, on a la réaction de la Chine, de la Russie, ça n'ira pas très loin, je pense.
Mais ça, c'est très étonnant, parce que la Chine s'engage à appliquer l'accord, la Russie ne reviendra pas non plus sur sa décision. C'est-à-dire que les États-Unis sont quand même de plus en plus isolés sur la scène internationale.
Écoutez, ça correspond à un changement de cap de 180 degrés. On l'a remarqué parce que il y a l'anniversaire de 50 ans de la mort de Kennedy c'est 100 ans de sa naissance, je sais plus. Pendant que Kennedy a ouvert une période de regard vers le futur et d'avancement de la science, Monsieur Trump essaye de regarder vers le 19e, l'industrie lourde. Chacun fait ce qu'il peut.
Oui. Comment réagit la communauté scientifique, vos confrères à l'Université de Californie à Los Angeles par exemple? Est-ce qu'ils sont inquiets? Quand on travaille dans la climatologie aux États-Unis en ce moment, quand même, c'est pas la joie, hein?
Écoutez, évidemment, c'est pas la joie. C'est très inquiétant parce que, comme vous le savez, le budget qui a été proposé par l'administration, qui n'est pas la même chose que celui qui sera adopté par le Congrès, quoique le Congrès aussi est dominé par des républicains qui sont peut-être pas moins obscurantistes, certains d'entre eux. Mais en tout cas, ce budget prévoit des coupes très considérable dans tout ce qui s'appelle les agences bailleurs de fonds, pas seulement la NSF, mais la NASA, la NOAA, évidemment la Environmental Protection Agency, etc. Donc, c'est très inquiétant.
En tout cas,
ça peut être à court terme un effet assez considérable.
Alors, on a peut-être une solution à vous proposer, Michael Gill. C'est en tout cas une proposition de notre président Emmanuel Macron. Écoutez-le, c'était hier soir et en anglais, s'il vous plaît.
À tous les scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs, les citoyens responsables qui sont déçus par cette décision du président américain, je veux leur dire qu'ils trouveront en France leur seconde patrie. Venez et travaillez ici. Quel que soit l'endroit où nous vivons, qu'importe qui nous sommes, nous partageons la même responsabilité.
Make our planet great again.
Voilà, Michael Gill, il faut venir bosser en France.
Mais écoutez,
vous n'aurez pas des bons salaires, mais vous serez bien accueillis.
le problème, d'abord, je voudrais dire que je suis très impressionné, enfin par rapport à ce que j'ai dit au changement de cap des États-Unis ou de son administration, par le changement de cap de la France. Enfin, bon, déjà de parler en anglais, c'est, je pense, une première pour un président de la République. Et, je le salue. C'est absolument remarquable. Ça a toutes sortes de connotations au-delà de.
Enfin, parler anglais aujourd'hui au XXIe siècle, c'est quand même pas remarquable, hein. Vous, non, vous trouvez pas? Surtout de la part de la présidente, non?
Oui, oui.
De la part de la France, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Bon. C'est normal.
Écoutez, donc, ce qu'ils trouveront, c'est un excellent matériel humain. Évidemment, moi, j'ai visité l'école normale depuis 79 et j'ai eu l'occasion de travailler avec des thésards normaliens, dont, disons, l'un dont j'ai co-dirigé la thèse, Hervé Letraite, vous le rencontrez dans les médias tous les jours, ou presque, enfin, au détriment de sa science, mais enfin, c'est un personnage remarquable, donc il arrive à donner et associer à cela. Bon, il y a un excellent matériel humain. Mais ça serait très sympa si la France respectait vraiment l'engagement de Lisbonne, c'est-à-dire les 3% de budget desquels elle est bien loin. Mmh. Et donc je veux à ce sujet raconter une petite histoire que je raconte toujours. Vous savez, quand Henry Kissinger est retourné de Washington à Harvard, il a dit, vous savez pourquoi les universitaires se bagarrent tellement entre eux? Parce que la tarte, elle est tellement petite. Alors en France, elle est 10 fois plus petite et les couteaux sont 10 fois plus longs. Donc, si vous voulez, c'est la France a été très hospitable, enfin très hospitalière à des scientifiques étrangers. Il y a eu beaucoup de sympathie. Quand je suis arrivé ici de façon permanente suite à une promesse à mon épouse, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un portable.
Oui.
Ça a pris de, oui.
Bon, d'accord, d'accord. On comprend que les moyens sont pas au rendez-vous, hein. Effectivement. Voilà. Mais pour terminer, parce qu'il nous reste seulement une minute, il semblerait en tout cas qu'en Europe, tout le monde essaie de se persuader en ce moment que l'accord de Paris va survivre au retrait américain. Il y a un sursaut, on le voit. Angela Merkel a fait des déclarations ce matin. Nicolas Hulot également sur cette antenne sur France Inter. Ça veut dire que vraiment, vous pensez que finalement, ça va remobiliser les foules plus que jamais, ce qui se passe avec les États-Unis?
Il y a beaucoup de choses que M. Trump a fait qui ont mobilisé les foules aux États-Unis. Je pense que ça aussi, ça va mobiliser les foules là-bas. Mmh. Et il y aura toutes sortes, je pense, j'ai confiance en particulier à ce groupe qui se veut futur signataire de la Convention, enfin ce groupe de maires, gouverneurs d'État, etc., qui peuvent faire les choses dans les faits que M. Trump ne voudrait pas faire dans le droit, enfin, s'il garde le droit. Enfin.
Oui.
Voilà. Donc, disons que c'était pas inattendu et je crois que les réactions sont attendues aussi.
Eh bien, on va voir ce qui va se passer, évidemment, dans les semaines et dans les mois qui viennent, après cette décision qui vraiment a sidéré le monde entier sur la décision donc de se retirer de cet accord de Paris autour du climat. Merci en tout cas à vous, Michael Gill. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'École normale et à l'Université de Californie de Los Angeles. Merci beaucoup à vous. Romain Troublé, Pierre Deparsco, merci également à tous
les deux.
Merci
beaucoup.
Donc on vous rejoint mercredi soir sur France O, 20h55 avec Tara, l'Odyssée du Corail. Et puis pour tous ceux qui souhaitent suivre le chemin du retour de Thomas Pesquet sur le plancher des vaches, eh bien il vous suffit d'aller sur le site de la Cité de l'Espace. Vous avez tout ce qui se passe en ce moment en direct avec les images et les commentaires des scientifiques et des astronautes.